présentation de notre conférencier aujourd'hui. Il s'agit de Claude Simoneau, qui va nous parler de l'humanitaire. Il est né en 1953. Sa formation, c'est médecin, docteur en médecine, et il est spécialiste de rééducation fonctionnelle. Quelques indications sur son parcours, et vous comprendrez tout de suite pourquoi nous l'avons invité. Il a travaillé, si on prend des dates de parcours, 80-83 en Thaïlande, où il coordonnait les ateliers d'appareillage dans les camps de réfugiés cambodgiens, laotiens, vietnamiens, birmans. 82, il est cofondateur de Handicap International France. Depuis 83, il assure des missions de supervision technique, exploratoire et des missions d'urgence dans le cadre des programmes de Handicap International et de Action Nord-Sud, une dizaine de missions par an. En 1986, il a été cofondateur de Handicap International Belgique. En 1989, cofondateur d'Action Nord-Sud et président de l'association jusqu'à sa fusion avec Handicap International. Et comme vous savez, toutes ces associations ont reçu en 1997 le prix Nobel de la paix pour leur action humanitaire. Actuellement, il est directeur des programmes de Handicap International, responsable de la mise en place et du suivi des programmes de Handicap International au Cambodge, Thaïlande et dans les camps de réfugiés Djibouti, Madagascar, Comores, Mozambique, Angola, Roumanie, Croatie, Bosnie centrale, etc. Je veux dire, d'une certaine manière, quand on énumère la liste de ces pays, c'est aussi la liste des crises humanitaires que l'on fait. Ses spécialités, ce sont bien évidemment la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité, l'appareillage des personnes handicapées et, bien, de manière plus générale, les projets de développement d'aide humanitaire d'urgence et l'action au sein des associations non gouvernementales. Publication, eh bien, il est surtout responsable du magazine Déclic, magazine mensuel pour les personnes handicapées et leurs familles, où il est directeur de publication et participe à la rédaction. Et puis, bien sûr, il a participé à la rédaction de nombreux documents et rapports concernant la situation dans les crises humanitaires. Je vais donc lui passer la parole pour une cinquantaine de minutes, et puis ensuite, il répondra à vos questions. Merci.
C'est tout d'abord moi qui ai envie de vous remercier pour nous avoir invités dans ce prestigieux lieu et surtout dans cette série de conférences parce que, d'une certaine manière, l'humanitaire, enfin en tout cas dans la compréhension qu'on en a, est en train de faire éruption dans le monde universitaire puisqu'on est très régulièrement sollicité pour participer à des cours et des formations, nous en reparlerons plus tard. Or, je suis assez flatté qu'on parle de ça ici, dans un contexte beaucoup plus généraliste, mais peut-être qui sous-tendra la manière dont je souhaiterais vous présenter cette affaire. Je ne suis pas un grand professeur, je suis un homme de terrain, j'ai une expérience de pratique quotidienne. Et donc j'étais un petit peu, gêné quand il s'est agi de répondre à la question l'humanitaire et les ONG. Parce que traiter en une heure, enfin ou un peu moins, cette question-là est évidemment un challenge assez complexe. J'imagine que c'est ce que vous disent tous les conférenciers. Alors moi je vous parlerai beaucoup plus de mon histoire. Et puis à travers ce que j'essaierai de vous dire, j'ai parsemé un certain nombre d'interrogations qui sont non pas les miennes mais les nôtres, puisque nous travaillons beaucoup en groupe et nous sommes un groupe constitué de personnes et c'est notre richesse. Et ces questions, vous pourrez les reprendre où elles chemineront, parce que c'est des interrogations qui pour nous sont importantes. Et si j'avais dû donner un titre à cela, j'aurais parlé des inductions paradoxales de l'humanitaire, parce que il me semble quand même qu'on est très très malmené sur ce plan-là et que les choses ne sont pas aussi simples qu'on voudrait bien les présenter. Alors, je vous ferai peut-être quelques petits repères historiques des origines de l'humanité en général, mais surtout des nôtres, enfin des miennes en tout cas, celles que je connais bien, qui nous entraînera sur la question du sans-frontiérisme, ce que j'appelle moi la grande émancipation sociale. Et puis, j'évoquerai les défis auxquels nous sommes confrontés et j'essaierai d'illustrer ça à travers des schématisations de notre expérience personnelle. Alors, tout d'abord, la question des origines un peu de ce mouvement humanitaire, il semblerait que ce soit une histoire récente, en tout cas pour un certain nombre. En tous les cas, qui est un petit peu confisqué par la culture contemporaine et la politique contemporaine actuelle. Alors moi, je ne suis pas complètement sûr que ça corresponde à la réalité, car à bien y réfléchir, on peut peut-être retrouver dans l'Antiquité et dans l'histoire des comportements et des attitudes, des pulsions, des choses qui peuvent avoir à faire avec l'humanitaire, avec des valeurs comparables à ce que l'on qualifie aujourd'hui d'humanitaire. Ça me fait un petit peu penser à comme si on traitait les déplacements humains à l'aune de la découverte de l'automobile. Moi, je suis persuadé qu'il y a dû y avoir des choses importantes avant. Ceci dit, il y a un certain nombre de dates qui balisent notre travail, qui balisent peut-être moins le phénomène que l'amplification du phénomène humanitaire dans notre société. Alors, je ne suis pas non plus historien, vous l'avez repéré là, dans ma biographie, mais on ne peut pas parler d'humanitaire et du développement des ONG sans évoquer évidemment les quelques dates repères que sont la bataille de Solferino avec Henri Dunant qui confrontait au désastre des blessés auxquels personne ne portait assistance. Il ne l'a pas créé ce jour-là, mais enfin, disons qu'il a... pris l'idée de créer et de mettre en place un organisme qui ne soit ni l'armée, ni les sauveteurs de l'un ou l'autre des camps, mais qui soit des sauveteurs neutres, pouvant agir sans limite d'accès pour venir en aide à toutes ces victimes. Donc la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge étaient nés à ce moment-là, donc c'est évident que c'est évidemment quelque chose qui a fortement marqué nos origines. On peut aussi repérer chez les intellectuels du siècle des Lumières, où, disons, il me semble qu'au moment du tremblement de terre de Lisbonne, il y a eu un grand mouvement des intellectuels et des écrivains français qui ont évoqué l'idée de mettre en place une espèce de corps de sauveteurs européens qui viendrait en secours à des gens vivant des circonstances particulières. Alors tout ça, à mon avis, c'est important, mais je pense qu'il est peut-être plus important de repérer dans notre histoire contemporaine, en tout cas en France, ce qui fait notre spécificité aujourd'hui. Alors, ce que nous a apporté Dunant, c'est l'idée que la victime, à partir du moment où, disons l'être humain, à partir du moment où il était victime, devait être secouru non plus par l'idée qu'il était de tel ou tel camp, mais comme si le statut de victime lui conférait un statut particulier qui le rendait potentiellement secourable. Alors nous reparlerons plus tard de ce que provoque ce statut de victime. Alors, si on compare un peu avec les pays voisins, je pense particulièrement à l'Angleterre, où on peut avoir des associations comparables, on se rend compte que les Anglais ont créé des associations plus précocement que nous, et ces ONG dont on parle, et dont Bernard Husson évoque l'idée qu'elles sont créées d'abord par le constat de carence, enfin, on repère une carence quelque part, et donc on décide à quelques-uns de créer une association pour y remédier. Ces constats de carence chez nos amis anglais ont été s'ancrent beaucoup plus sur la première moitié de ce XXe siècle. Pour ce qui est de ma culture et de ma génération, je crois qu'il faut quand même beaucoup plus repérer notre genèse dans la deuxième moitié de ce XXe siècle. Si c'est les grandes familles ukrainiennes qui ont présidé à l'émergence des ONG anglaise, je dirais que les French Doctors sont très contemporains de l'émancipation 68arde. En gros, il s'est produit en France un mouvement social, et je ne me hasarderai pas sur les travées des sociologues pour le décrire, Mais pour être de cette génération, il me semble que d'un seul coup, nous avions une espèce d'énorme émancipation, une pulsion politique d'être au monde en tant que citoyen universel, beaucoup plus qu'en tant que Français. Ce qui fait que moi qui ai fait mes études juste après 68, il ne me serait jamais venu à l'idée d'être autre chose que médecin parcourant le monde, parce que c'était pas imaginable de penser autrement. Donc il est évident que tout ce contenu-là a créé pas mal d'utopies, et surtout je ne voudrais pas prétendre à ce que les ONG soient seules issues de 68. Mais disons qu'aujourd'hui, on peut dire que, en gros, ce que l'on qualifie de sans-frontiérisme s'articule sur cette période-là. Juste avant, il y avait eu une période plutôt militant anti-armondiste qui s'était beaucoup plus articulée sur une réaction à la colonisation. Alors, si on parle de ce que je connais, c'est-à-dire en gros le sans-frontiérisme, il me semble que ça s'articule sur une croyance doublement utopique. D'abord, la première, c'est d'imaginer, en tout cas au départ, qu'on puisse être efficace. Au départ, il me semble quand même que les gens qui travaillaient, enfin moi le premier, on était présents, mais on n'était pas forcément extrêmement efficaces. Et puis, une deuxième prétention qui était la prétention à la neutralité. Alors, prétention à la neutralité, vous savez que c'est assez compliqué la neutralité, je ne suis pas complètement sûr que ça existe vraiment, mais déjà nos engagements nous entraînaient sur des terrains un peu particuliers. On se prétendait neutre, mais on allait plutôt travailler avec les résistants afghans ou travailler avec les boat people ou les réfugiés cambodgiens. Donc nous avions fait évoluer le statut de victime au statut de bonne victime. C'est pas comme s'il y aurait des bonnes victimes et qu'il y en aurait des moins bonnes. Donc c'est des questions. Je lance des perches et puis je pense que certains les reprendront. Bien évidemment que tout cela a évolué, mais l'explosion des sans-frontiéristes a été très contemporain aussi de l'explosion médiatique. C'est en gros le couple qui fonctionnait très bien, c'est celle de la caméra et du médecin, en fait, ou du sauveteur. C'est Jean-Christophe Ruffin qui décrit ça de manière assez intéressante. Il disait quand le French Doctor faisait irruption en Afghanistan, l'image faisait irruption dans les foyers. Et c'est cette conjonction-là qui a probablement permis cette espèce d'explosion formidable dans ce couple emblématique média-humanitaire et qui a fait que depuis une vingtaine d'années maintenant, ces associations ont connu un tel essor. Alors, la question n'était pas tant de savoir ce que l'on y faisait, mais il était important qu'on soit comme des ambassadeurs. L'important était beaucoup plus de réagir que d'agir. En fait, on était porte-parole d'une réaction qui commençait à s'organiser et qui s'organisait concrètement par du soutien financier. En gros, la médiatisation de nos actions et le corrélatif de mobilisation de fonds privés autour de ces actions a généré, je dirais, les ONG à la française. Et dans ce couple emblématique média-humanitaire, chacun et ça profite de l'autre, en fait. Chacun. Donc l'enjeu était beaucoup plus d'être présent que de savoir si on agissait efficacement ou pas. Et évidemment, tout ça évoluera bien assez rapidement vers ce que l'on a appelé la professionnalisation. Alors, ce passé, je ne le renie pas, simplement, je crois que c'est important de savoir d'où on vient pour savoir un petit peu où on va et savoir un petit peu comment les choses ont évolué. Si, comme le dit Bernard Husson, les associations se sont fortement créées sur le constat de carence, et un constat de carence qui tournait beaucoup autour des besoins élémentaires, cette naissance, à ce moment-là du siècle, inscrit nos associations, ou la genèse de nos associations, sur un positionnement au monde qui est fondamentalement politique. Et il me semble que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, ça se traduit très concrètement par un débat autour de l'éthique dans nos groupes, un débat autour des valeurs qui sous-tendent et de la normalisation potentielle de notre travail, dont nous reparlerons tout à l'heure. Ce désir ambigu et double, ce désir au départ a été caractérisé, et cette ambiguïté entre d'une part le constat de carence, c'est-à-dire en gros qu'il y a des gens qui ont des besoins, et puis de l'autre part ce positionnement au monde essentiellement politique, se voit de manière très claire dans la dénomination. La dénomination qui est d'abord articulée autour d'une guidance professionnelle. On est médecin, on est vétérinaire, on est pharmacien, on est architecte, on est ingénieur, et on est sans frontières, où on est du monde. En gros, cette espèce de naïveté dans nos dénominations marque bien ce double positionnement. Je vous signale que c'est une formule complètement intraduisible en anglais. Hein. Médecin sans frontières, ça veut dire que c'est un espèce d'ectoplasme sans enveloppe. C'est pas forcément très, très clair. Donc c'est quelque chose qui est quand même extrêmement fort chez nous, qui était probablement évocateur d'une ambition humaniste universelle. Alors, ceci dit, et là je repose encore une question qui pour moi est importante et riche de sens, c'est que déjà s'appeler médecin sans frontières ou s'appeler pharmacien sans frontières, c'est déjà préjugé par avance que le savoir que l'on possède est utile aux autres. Et donc c'est présupposé qu'on ne peut être que utile. Et ça, cette guidance professionnelle, elle portera, on le verra un petit peu plus tard, un certain nombre de risques dans la manière dont s'instrumentalisent nos actions. Alors, le comble de cette guidance professionnelle est atteint quand se crée, je ne sais pas quand, mais une association qui s'appelle Douaniers sans frontières. Donc, je pense que là, il y a quand même probablement un risque d'autodestruction assez rapide. En gros, tout se passe comme si ce qui nous intéressait plus, c'était la solution que l'expression du problème. Hein? Et tout ça, ça produit ce que j'appelle les trous noirs dans notre travail. Les trous noirs dans notre travail, c'est que j'entends très rarement parler les gens qui sont dans notre milieu de culture, par exemple. Or, on sait bien, et on a bien vu avec les récents événements qui se sont passés au plus proche de nous, en Europe, et il s'est probablement passé la même chose ailleurs, mais disons qu'on y était particulièrement sensible parce qu'on était plus proche des Bosniaques ou des Roumains ou que sais-je. C'est la destruction systématique des attaches culturelles. Quand on détruit en une nuit une mosquée, qu'on viole les femmes, qu'on détruit toute référence culturelle, on ne détruit pas l'autre, on détruit les racines de l'autre, ses racines les plus profondes, etc. Or, cette guidance professionnelle nous a amené à avoir des espèces de trous, comme ça, de choses dont on ne parle jamais. La culture, on en parle extrêmement rarement. Alors, c'est pas pour nous vanter, mais il se trouve que Jean-Baptiste Richardier et moi-même, quand nous avons créé Handicap International, tout au début, la première action qu'on ait faite, et on l'a fait d'un point de vue strictement intuitif et sans du tout avoir conceptualisé quoi que ce soit, mais c'était dans les camps de réfugiés où les gens, ils avaient suffisamment à manger, ils avaient un abri, ils avaient des médicaments, et on s'est rendu compte que ces gens n'étaient rien que des numéros, des réfugiés. Ils n'avaient pas le droit de sortir, ils n'avaient pas le droit de travailler, ils n'avaient pas le droit... En fait, ils n'avaient pas le droit d'être, et ils sortaient de 4 ans ou 5 années de Khmer Rouge, donc avec, là encore, des destructions très systématiques de toute référence culturelle. Enfin, disons, il y en avait une seule valable, hein. Les autres étaient à jeter. Et il se trouve que les premiers fonds qu'on a consacrés à aider les Cambodgiens, alors même qu'il y avait des besoins qui paraissaient beaucoup plus vendeurs, entre guillemets, eh bien, ça a été de soutenir la création d'ateliers de couture pour fabriquer les costumes de danse du ballet de Phnom Penh, pour que les gens restaurent un peu dans ces camps où ils ne sont plus rien que des réfugiés et des cartes, pour que les gens restaurent une capacité à être autre chose, à être dans un lien au passé et une projection au futur. Alors, C'est pour ça que c'est des choses qui me préoccupent beaucoup, ces histoires de guidance professionnelle, ces histoires d'impérieux besoin d'exporter nos savoirs en étant persuadé que les autres en auront forcément besoin puisqu'ils sont pauvres, malades, africains ou asiatiques. En tous les cas, voilà. Alors, je pense que là, tout ça, tout ce que je viens de décrire de manière un peu brouillonne, parce que je préfère parler que lire, se situe et s'articule une spécificité française par rapport à nos collègues nordiques ou nord-américaines. Parce que, en fait, bien plus soutenus par leurs États ou les entreprises, nos collègues américains ou nos collègues des pays du Nord ont évolué bien plus vers un fonctionnement entrepreneurial. Ils se prétendent professionnels, ils le sont, et surtout, ils travaillent sur des bases contractuelles et conventionnelles. Je n'ai pas tendance à dire que les ONG françaises ne le sont pas, mais je crois qu'on a gardé quand même de cette histoire-là, de cette histoire courte, la nostalgie et surtout la culture d'un interventionnisme emblématique. Et on ne peut pas parler d'humanitaire sans évoquer Mario Benedetti et son travail sur le droit d'ingérence, quelles que soient les questions discutables que cela provoque. Mais ce droit d'ingérence, cette possibilité de penser nos actions, et cette liberté, qui est probablement beaucoup plus fictive qu'on ne l'imagine, mais quand même, cette liberté de dire non et de pouvoir choisir. Alors, donc notre évolution, et je vais rentrer alors à ce moment-là dans les détails pour ce qui concerne Handicap International, serait donc passée d'une guidance basée sur un métier qu'on sait faire et un constat de carence très approximatif, vers une position plus conceptuelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ben, je vais vous donner un petit exemple très rapide sur ce que j'appelle le circuit de situation de handicap. Voilà. Alors, en fait, si je posais une question dans la... Je fais ça souvent aux gens qui partent sur le terrain, je leur dis... en gros... Qu'est-ce que c'est pour vous une personne handicapée ? Parce que c'est vrai que nous, on s'appelle Handicap International. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'une personne handicapée ? Alors les gens réfléchissent, puis au bout d'un moment, il y a des gens qui disent « c'est quelqu'un qui n'est pas comme moi, en fait hein, », ou des choses comme ça. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une relation au handicap qui est un petit peu curieuse. Tout le monde y met un petit peu sa propre compréhension, une relation à l'altérité qui est parfois un petit peu difficile, un peu incohérent. Et surtout qui se construit en creux. Alors, nous, on a travaillé un petit peu là-dessus, fort de notre expérience avec les Cambodgiens. Moi, j'avais pas tellement envie d'être spécialiste dans le domaine du handicap. Et c'est en rencontrant les amputés cambodgiens que d'un seul coup, c'est pas une vocation qui est née, mais d'un seul coup, je me suis rendu compte que c'était extraordinaire de travailler avec des gens qui ne soient pas malades. Alors, je vous propose un peu quelque chose qu'on a construit à partir des travaux de M. Fougérolas, qui est un ethnologue canadien qui a décrit ce que l'on appelle le processus de production du handicap. Et vous verrez que cette évolution vers ce savoir-faire où on se rue dans le tiers-monde pour aller aider je ne sais trop quel amputé par mine, vers une position plus conceptuelle, a des conséquences directes sur la nature de nos actions. Alors, moi, je pars du contexte dans lequel les gens vivent. Alors, les gens, ils vivent dans un contexte économique plus ou moins riche. Ils roulent en voiture, ils fument pas. Il y a la guerre, il n'y a pas la guerre. Il y a la polio, il n'y a pas la polio, etc. Ce concept de vie détermine... Alors, avant, j'avais marqué pathos. Et puis, mes collègues, ils m'ont dit, t'es vraiment un sale médecin. Donc, je marque événement. Enfin, donc, un certain nombre d'événements traumatiques qui fait que quand vous vivez dans une situation de guerre ou quand vous vivez en ville ou quand vous fumez, ben, vous avez un certain nombre de facteurs de risque qui se déclenchent. C'est... c'est ces événements traumatiques, cette pathologie entraîne une déficience. Ce qu'une déficience, ça n'a rien à voir avec un handicap. Une déficience, ça veut dire que vous avez un organe ou une partie de votre corps qui peut éventuellement fonctionner moins bien qu'il ne fonctionnait avant. Comme vous habitez dans un camp de réfugiés, l'événement traumatique, c'est que l'eau est assez polluée, donc vous avez eu la polio. La déficience, c'est que vous avez eu un de vos nerfs moteurs qui a été abîmé. Votre incapacité, c'est que vous ne pouvez plus marcher aussi bien qu'avant. Vous ne pouvez plus courir. Mais pour l'instant, vous n'êtes toujours pas handicapé. Selon nous. Alors, selon nous, encore une fois, il me semble que le handicap n'existe pas, mais existe une situation de handicap qui serait la conjonction à la fois de ce degré de compétence, hein, c'est-à-dire cette incapacité, de quoi est-on capable, et du contexte dans lequel on vit. Fougerolas, lui, dans sa schématisation, rajoute, en plus du contexte de vie, il rajoute les habitudes de vie. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence directe, cette affaire-là ? Eh bien, c'est que... je vais passer tout de suite à la dernière plaque. C'est que si on s'autorise d'agir, si on veut interagir pour arriver à réduire cette situation de handicap, eh bien, on peut agir à tous les niveaux du cercle. Et j'ai fait apparaître la prévention primaire, évidemment. La vaccination, c'est de la prévention primaire. Mais on peut aussi agir au niveau du contexte, l'aménagement du cadre de vie, une société plus ouverte, plus tolérante, plus accessible pour un certain nombre de personnes. La prévention secondaire, qui est les traitements post-pathologie, ou la rééducation, ou des soins de meilleure qualité empêchent la survenue de séquelles trop lourdes, ou bien la prévention tertiaire, c'est-à-dire fabriquer une prothèse, rendre les gens un peu plus capables, c'est toujours de la prévention, c'est toujours empêcher que la situation de handicap ne se détruise. Alors, on tire de ce type de schéma-là l'idée, premièrement, que contrairement à la schématisation de l'OMS classique où la personne handicapée est responsable de ce propre chaînage, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une maladie, qui a une incapacité, qui a un handicap. Nous, on dit, interagissent sur ce processus personnel des facteurs environnementaux, des habitudes de vie, et donc ce n'est pas la seule personne qui est responsable de sa situation de handicap. La situation de handicap est placé sous une espèce de co-responsabilité, est un mécanisme interactif, en fait, pour être plus précis. Ce qui veut dire qu'en termes d'action, eh bien, ce n'est pas forcément la prothèse qui sera le plus utile. C'est peut-être aussi travailler sur l'environnement, c'est peut-être travailler sur les habitudes de vie. Ça veut dire quoi également ? Travailler sur le contexte, eh bien, ça a légitimé complètement notre approche en matière de mine antipersonnelle. Bien sûr, puisque dépolluer le contexte dans lequel les gens doivent revenir se réinstaller après une guerre en temps de paix, c'est aussi travailler sur de la prévention. Et c'est en même temps permettre que des gens puissent reprendre en main leur capacité de production. Donc ça nous met un peu à distance d'une action qui ne serait qu'exclusivement salvatrice. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément là pour faire une prothèse. On est là pour, on se met un petit peu à distance et on est là pour que ce cercle infernal de production du handicap s'inverse. Et ça nous rend peut-être un petit peu plus modestes, et c'est un petit peu à ça qu'à mon avis servent les concepts, c'est de se mettre un petit peu en état d'esprit critique par rapport à son travail pour ne pas se faire entraîner dans une espèce de pulsion de l'action, comme ça, de soins qu'on délivrerait en débitant le plus possible, avec des journées qui n'en finissent pas, en disant mais il y en a encore beaucoup dont il faut s'occuper, enfin, etc., etc. Donc voilà, c'est un exemple de notre évolution, et c'est vrai qu'au départ, moi je me ruais sur les amputés pour leur faire des prothèses, à tel point qu'une fois, une femme est venue me voir, elle avait les deux jambes coupées, c'était au Mozambique, et on s'est précipité pour lui faire des prothèses. Et au bout d'un moment, elle nous a dit, mais attendez voir, arrêtez, parce que moi je suis venue ici, j'habite dans un village, je suis mariée, j'ai ma vie, on m'a coupé les jambes quand j'étais petite parce que j'ai été brûlée, mais Je ne suis pas venu pour me faire des prothèses, je suis venu parce que j'ai des problèmes gynécologiques, je n'arrive pas à avoir d'enfants. Donc, c'est évident qu'on a parfois un peu un regard un peu prison, quoi. Et bon, et elle marchait très bien, elle se déplaçait, elle faisait tout, elle travaillait, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas, elle est pas revenue plus tard chercher ses prothèses, mais voilà. Je crois que c'est assez important, tout ça. Enfin, en tout cas, dans notre évolution, c'est quelque chose qui est assez important. Alors, je dirais aujourd'hui, où en est-on ? Je voudrais évoquer ce qui s'est passé en Europe pendant ces 20 dernières années, en particulier la chute du mur de Berlin, l'ouverture des frontières de l'Est, etc. Qu'est-ce que ça a produit chez nous ? Ben, ça a produit le fait d'abord que le conseil municipal du petit village d'à côté pouvait tout à fait envisager, lui, de prendre en main et de mettre en œuvre une action dite humanitaire. En gros, il y a eu une démocratisation, entre guillemets, où avant il y aurait eu comme ça une période où seuls des experts et des soignants étaient capables d'aller je ne sais sur quel champ de bataille pour aller prendre des risques et faire des choses. Et là, d'un seul coup, comme c'était nos voisins de palier qui avaient des problèmes, et ça a surtout commencé avec la Roumanie, on s'est rendu compte que d'un coup de camionnette, on pouvait traverser une partie de l'Europe pour aller se mettent dans cette position empathique d'aide, etc., etc. Donc, on a assisté à une inflorescence d'un certain nombre d'initiatives, de micro-initiatives, souvent modestes, mais parfois champignonnesques. C'est-à-dire qu'en même temps, les fonds d'aide d'urgence s'étant multipliés au niveau de la CE en particulier, la nécessité, la pression médiatique faisant loi, il était nécessaire de faire des choses et de les faire vite et de les faire bien, etc. Et ce qui fait que, alimenté fortement par les flux financiers de la CEE, il y a des associations qui ont grossi extrêmement vite, qui sont passées en un rien de temps à des grandes affaires, etc. Et à tel point que un des critères de la CEE et d'ECHO, qui est donc l'ECHO et la branche humanitaire de la CEE, un des critères était la capacité d'absorption des ONG. C'est-à-dire qu'on est jugé également sur notre capacité à absorber le maximum de moyens pendant le minimum de temps pour le mettre en œuvre sur des terrains comme ça. Alors, tout cette espèce de panique ambiante de ces 20 dernières années ont créé beaucoup de confusion, de non-cohérence des actions, de duplication, d'amateurisme, enfin. Petit exemple, j'ai rien contre les Italiens que j'aime beaucoup, mais j'ai vu arriver dans un camp bosniaque, vous savez que les bosniaques sont un peu musulmans, pour Noël, des camionnettes avec des gyrophares, il y avait marqué sur les camionnettes « Natale anche per loro ». Bon, la psychologue du camp nous a dit « on accepte leurs cadeaux parce que c'est pour leur faire plaisir ». C'est vrai que ces braves Italiens n'avaient pas pensé que les musulmans, ils n'ont pas forcément un arbre de Noël, des choses comme ça. Donc, la nécessité de se professionnaliser et surtout la nécessité de normer nos actions. Et ça, je pense qu'on va en parler de manière importante. Mais surtout, je ne voudrais pas passer là-dessus sans évoquer, parce que ça nous est apparu de manière assez importante, quelque chose que j'appelle la tyrannie de l'aide d'urgence. Alors, l'aide d'urgence, si elle est extrêmement, extrêmement utile, et je ne suis pas là pour la critiquer, s'articule sur ce que l'on a évoqué tout à l'heure, qui était le statut de la victime, et même le statut de la bonne victime. Parce que qui dit une bonne victime dit un bon sauveteur. Souvent, ça va te perdre, donc en fait, c'est un petit retour sur nous. Alors, il y a des gens qui ont écrit là-dessus. Il y a Bernard Ours qui a fait je crois que c'est d'ailleurs La tyrannie de l'aide d'urgence, son titre, ou Le totalitarisme de l'aide d'urgence, quelque chose comme ça. Alors, moi, je pense que on peut pas travailler dans l'aide d'urgence sans prendre en compte le caractère extrêmement totalitaire de cette aide-là. Parce que, en fait, c'est une aide qui, justement, comme elle s'articule exclusivement sur l'image parfois très médiatisée de la victime, méconnaît dans l'histoire de ceux que l'on désigne victimes une histoire ou le sens même de la crise qu'ils traversent. En fait, là encore, se constitue un espèce de couple emblématique entre la victime et le sauveteur. Alors, je ne sais pas, c'est un évêque qui disait, je l'ai piqué à Ruffin, ça aussi, les pauvres auraient-ils été créés pour que les riches puissent faire acte de charité, en fait. C'est un évêque qui disait ça au Moyen-Âge, mais enfin, on peut penser qu'on n'en est pas si loin, quoi. Et moi, je voudrais rebondir là-dessus en citant le griot et chanteur Salif Keïta qui disait « Arrêtez donc de nous regarder comme des pauvres, nous ne sommes pas que pauvres. » Et ça, c'est vrai que dans ce parcours-là, quoi, quand on est dans cette espèce de sauvetage, comme ça, eh bien, on en oublie que les autres ne sont pas que cela. Je pense en particulier au travail avec les Palestiniens, par exemple, où on a pu travailler avec un certain nombre de peuples qui sont en combat, et quel que soit ce que l'on pense ou pas de leur combat, il arrive un moment où les gens ils nous disent « Mais arrêtez, c'est pas de bouffe dont on a besoin, on a besoin d'autre chose. Si vous voulez nous soutenir, on a besoin d'autre chose. » En fait, ce risque, on prend le risque de réduire les gens à des besoins exclusivement alimentaires, et après on se dit « Mais pourquoi ils râlent, quoi ? En fait, on leur a donné à manger. » On leur a donné des rations alimentaires, on les calibre, on leur a donné des abris, souvent des bâches. En plus, on les noie dans une masse, c'est-à-dire on traite des masses, on traite des chiffres, on traite des kilocalories, on manipule, on calibre, on statistise. Enfin bref, tout ça me paraît assez important, même si on rentre dans ces types d'opérationnalité-là, de garder un esprit critique. On méconnaît également dans ces situations-là l'endettement psychique que l'on provoque. Je vous donne un exemple très, très, très simple. J'étais en Albanie, au Kosovo, pendant la crise. On a travaillé longtemps au Kosovo, avant la guerre, et on a continué pendant et après. Et je voyais ces gens qui étaient dans un gymnase où il y avait beaucoup, beaucoup de gens, comme ça, des familles. Et il y avait une camionnette avec ce que je vous décrivais, la camionnette, les petits jeunes avec les t-shirts et le nom de l'ONG sur le t-shirt, la caméra de télé, et puis la file de réfugiés qui attendaient, et c'était du mano in la mano, les paquets. Et j'ai trouvé ça extrêmement humiliant, parce que dans ces groupes de réfugiés qui venaient, il y avait des gens qui auraient pu être les parents, les professeurs, il y avait des gens de toute nature. Et je trouvais qu'il y avait quand même une absence assez, assez phénoménale de précautions élémentaires de la manière dont on doit s'engager dans cette relation d'aide et la manière dont cette distribution doit se faire. Et cet endettement psychique de celui qui reçoit vers celui qui donne, quand il donne comme ça, ben, il provoque de la haine, en fait. Et alors après, on reçoit des lettres où on nous dit on ne comprend plus, les Roumains au début, ils étaient vraiment sympas, maintenant on ne reçoit que des listes de matériel, ils ne disent même pas bonjour, ils ne disent même plus merci, enfin, etc. Et donc finalement, c'est des gens, ils sont intéressés qu'à notre pognon. Enfin bon, bref. Et se constitue un espèce de registre, on part d'une espèce de pseudo-empathie salvatrice vers quelque chose qui est une haine, et voire même parfois une réaction raciste. De toute façon, il faut qu'on contrôle la distribution d'aide, hein, parce que sinon, on va se faire voler des colis. Hein. Ça, vous ne connaissez pas, hein, ils sont comme ça. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a, là, il y a un sacré paradoxe, quand même. Hein. Peut-être que certains d'entre vous voudront rebondir là-dessus. En fait, moi, je préfère parler de crise plutôt que parler d'urgence. Cette crise qui permet de penser que les gens, ils ont un passé puis ils ont un futur. Alors, on dit toujours qu'il faut se repérer à ce qu'on a pu faire chez nous. Ce qu'on a pu faire chez nous, ben, l'année dernière, il y a eu une tempête. Hein, et j'ai écouté un fait divers qui m'a vraiment fait penser à ça. Quoi. Le gars, il s'est fait inonder la nuit dans sa voiture sur une route désolée. Et puis, il est monté sur le toit, puis l'eau montait toujours. Et puis, il est monté après un piquet téléphonique, enfin, EDF. Et il a passé la nuit à attendre les secours. On peut penser qu'il était dans une situation d'urgence aiguë, parce que il y avait le flot, il faisait froid, il pouvait tomber, se noyer. Enfin bon. Et le type raconte qu'il tenait parce que, en fait, il pensait à sa voiture et il se disait, il s'imaginait quelle voiture il allait pouvoir racheter. Alors, je me suis dit, c'est vrai que c'est... Enfin, bon, il pensait pas... en gros, c'est bien comme ça que dire, les gens, ils ne sont pas qu'urgence ou ils ne sont pas que développement. Enfin, ces clivages comme ça qui sont d'abord des clivages opératoires qui sont les nôtres. Parce qu'on a un savoir-faire d'urgence, on va mettre les gens dans la boîte d'urgence, etc., etc. Il me semble que des populations, où qu'elles soient, et encore récemment, c'était nous, hein, on traverse des crises, et dans ces crises-là, eh bien, il y a des mécanismes de solidarité interhumaine qui doivent se mettre en œuvre, mais qui n'ont de sens que si elles s'articulent sur un passé et si elles se projettent sur un futur. Sinon, je pense qu'on produit des choses assez dangereuses. Alors, cette tyrannie de l'aide d'urgence a fait que bien aujourd'hui les ONG qui sont assez peu nombreuses à être aujourd'hui équilibrées au niveau financier, c'est-à-dire autant financées par les fonds institutionnels que les fonds privés, eh bien ce sont, enfin, disons qu'il n'y a plus beaucoup d'ONG qui aujourd'hui sont capables de ce cofinancement et que suite à ce grand mouvement des années 80 et cette inflorescence d'ONG, eh ben, on a vu une déflorescence et les années 2000 ont été pour beaucoup un mouvement de dépôt de bilan, de fermeture associative, etc. etc. Alors, les défis qui nous sont posés aujourd'hui, les défis actuels, je voudrais vous les illustrer plutôt que causer comme ça, je voudrais vous les illustrer à travers ce que j'appelle un trépied opérationnel dont le but n'est pas de, encore une fois, de... Le but est beaucoup plus d'être une piste à réflexion que d'être une modélisation parfaite. Alors, le trépied opérationnel, pour moi, il a un intérêt, c'est que il évoque non pas l'exhaustivité des choses que l'on doit prendre en compte, mais il évoque la complexité. Hein. Donc, en fait, c'est comme dans les trucs d'enfants, il y a plein de trucs à remplir et vous pourrez voir que probablement que si vous y réfléchissez ou si des gens sont des professionnels comme moi, ils pourraient le remplir de manière un peu différente. Alors, ah pardon, j'en étais au trépied opérationnel. Voilà, alors le trépied opérationnel, il me semble qu'on pourrait dire qu'un trépied opérationnel s'articule autour de trois logiques. Encore une fois, c'est quelque chose de très personnel, ça peut être contestable. Une logique de milieu, une logique d'acteur et une logique de bénéficiaire. En gros, on pourrait dire que on n'intervient pas dans un désert, hein, on n'arrive pas dans un endroit où il n'y a rien, on n'intervient pas tout seul, jamais, ou alors c'est un peu gênant, et on intervient pour des gens, on intervient pour quelqu'un. Alors ça, obligatoirement, ça nous renvoie à des choses. Et si j'ai... Encore une fois, délibérément, j'ai fait des listes ouvertes. La logique de milieu, eh bien, ça nous renvoie à l'échelle d'intervention. Ça nous renvoie, en gros, quand Médecins sans frontières travaille sur de la santé publique ou de la santé dans un camp, quand il a travaillé au niveau d'un district ou d'un département, il a déjà énormément de travail à faire. Nous, quand on travaille au niveau du handicap, on travaille sur une échelle macro du pays, voire de deux pays. Donc, les échelles d'intervention sont extrêmement importantes. Le chronogramme et la planification des actions, les priorités, la stratégie d'implantation. Est-ce qu'il faut mettre un atelier d'appareillage partout, enfin, etc. Donc la logique, la culture, enfin, la religion, bref, tout ce qui constitue un milieu dans lequel on fait irruption, parce que c'est quand même quelque chose d'assez traumatisant parfois, pour ceux qui irruptionnent et pour ceux qui reçoivent. La logique d'acteur, bien la logique d'acteur nous renvoie aussi au fait que le but n'est pas tant de faire, mais de faire faire, et donc d'arriver à dégager des partenariats. Et c'est extrêmement compliqué. Il faut faire des conventions, des contrats, des partenariats. Pour vous donner une petite idée, on a évalué un des partenariats qu'on avait avec un partenaire bangladeshi. Bon, alors pour évaluer la qualité du partenariat, on a distribué des cartes. Chacun avait son jeu de cartes. Il y avait 7 ou 8 cartes dans lesquelles il y avait des critères qui étaient les critères, les enjeux du partenariat. Les enjeux du partenariat, ça voulait dire mettre en commun des savoirs, avoir accès à des financements, bénéficier de la culture de l'autre. Enfin bon, et puis on a dit aux gens, ben, chacun, hein, nous intervenants, puis vous, partenaires du Sud, vous allez classer un petit peu les cartes par ordre de priorité, puis on les a mis en face. Et normalement, puis on a vu que les flèches se croisaient du haut en bas. Enfin bon, bref. On n'avait pas du tout les mêmes priorités. Construire un partenariat est quelque chose de très, très complexe. Très complexe. Ça passe à travers les représentations qu'on peut avoir les uns des autres, etc. Ça passe à travers de la formation. Alors la formation aussi, c'est extrêmement riche. Et ça ne se fait pas comme ça. On ne s'improvise pas formateur comme ça. C'est vraiment très compliqué. C'est pas très compliqué, mais ça génère des situations complexes. Parce que parfois, nos collègues du Sud ont le sentiment que « Pourquoi vous ne nous formez pas ?» Comme si le savoir était une espèce de boîte secrète, un petit peu un trésor comme ça, qu'on pourrait prendre et transmettre et poser dans la tête de l'autre. Et donc, il y a des mécanismes un petit peu d'envie par rapport à ça. Et je crois que c'est organiser une formation, mettre en place des mécanismes pédagogiques, amener les gens à être en position de se former eux-mêmes, c'est un vrai projet. C'est un vrai projet. Ça ne se fait pas n'importe comment. Le pouvoir, la délégation, hein, qui c'est qui a les clés du 4x4, qui c'est qui a les clés du coffre, hein, c'est important ça. Les conflits qu'on peut avoir avec les gens, la gestion d'équipe, l'ambivalence de l'aide, c'est évident que l'aide comporte en elle-même son ambivalence, qui c'est qu'on soutient, hein, les Khmers rouges, hein, ou pas les Khmers rouges, et la logique de bénéficiaire, qui nous emmène sur des notions, ce qu'on appelle la santé à base communautaire. J'ai marqué réhabilitation, mais pour être plus exhaustif, on pourrait parler de santé à base communautaire. La notion de famille handicapée, où on considère par exemple que notre cible n'est plus la personne handicapée, mais la famille, puisque la présence dans une famille d'un gamin handicapé met la famille en grande difficulté. Mon ami Alit, qui est kosovar et qui s'est tiré quand il y a eu les bombardements, il a été chassé par les Serbes, il est paraplégique, eh bien, il est resté dans sa voiture une semaine à la frontière parce qu'il ne voulait pas qu'ils confisquaient les voitures, les Serbes. Et il avait confisqué son fauteuil roulant aussi. Donc, il a vécu pendant une semaine dans sa voiture. Et bien, sa famille est restée autour. Donc, ils ont vécu pendant une semaine dans une voiture avec un paraplégique. Donc, toute la famille était dans une situation périlleuse. La représentation culturelle du handicap, hein, pour certains, le handicap est messager, de bon ou de mauvais, enfin, etc. Donc, savoir gérer ça. Besoin émis, besoin perçu, évidemment. Moi, avec ma casquette de médecin pseudo-expert, je peux arriver quelque part et imaginer que les besoins dont je percevrais qu'ils sont ceux des gens sont ceux-là. Or, que les besoins émis, on l'a vu avec notre Mozambicaine, hein, c'est pas forcément ceux-là, hein, etc. Et tout ça s'articule sur quelque chose qui pourrait être un trépied. Et si on rajoute, ne serait-ce que les petits éléments des listes très ouvertes que j'ai faites, alors, je crois que les petits écrits ne sont pas lisibles, mais ce n'est pas très important, parce que ce qui est surtout important, c'est de voir que, finalement, une programmation, que ce soit dans l'urgence ou dans le développement, ou en situation de crise ou hors de la crise, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et que... voilà. Et donc, cette complexité nous renvoie à la nécessité d'une professionnalisation. Alors, moi, je suis très gêné par la notion de professionnalisation, en tout cas par le terme, parce que la professionnalisation sous-entend que les gens ne l'étaient pas. Alors, à part quelques amateurs ou quelques regrettables exemples, je ne crois pas que les gens n'étaient pas ou ne sont pas professionnels. Je crois, par contre, que ces professionnels ont été confrontés à des situations difficiles que l'on a eu un certain nombre de difficultés d'adaptation. Et que ces difficultés d'adaptation, elles sont toujours en cours. En fait, il me semble qu'il n'existe pas de métier de l'humanitaire, et il existe dans l'humanitaire des gens qui ont des métiers et qui le déclinent dans un cadre d'action solidaire ou d'action de développement. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil parce que, encore une fois, je me méfie toujours de ces experts. L'expert est quand même parfois un petit peu embêtant. Alors, Aujourd'hui, la question qui émerge, et pour faire un état des lieux de ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est la question de la normalisation et de la tendance normative qui commence à nous être imposée par les bailleurs. L'Europe a fait que beaucoup d'associations travaillent ensemble, des associations de tous les pays, puisque l'Europe finance un certain nombre d'associations. Donc, ils ont besoin d'y voir clair. Les récents événements critiques et les crises, en particulier balkaniques, ont amené une telle foire d'empoigne sur les champs de la crise qu'il est, il est impérieux de mettre un petit peu d'ordre à cette confusion-là. Il a donc été soutenu une initiative qui s'appelle Sphère. Il y en a d'autres, mais il y a une initiative qui s'appelle Sphère. Je la cite pour mémoire, mais ce qui est important de savoir, c'est que l'institution aime bien ce qui est normalisé, parce qu'elle s'y retrouve, elle s'y repère, elle peut juger, elle peut savoir où va son argent, elle peut avoir des indicateurs d'efficacité, etc. Alors, comment se positionner par rapport à ça ? Alors, moi, il me semble qu'il est tout à fait légitime d'avoir des critères et tout à fait légitime d'avoir des normes, les critères d'intervention, les normes d'action, les SOP, comme disent les Anglais. Nous, on travaille avec des démineurs, donc les démineurs, ils appellent ça les SOP, j'aime bien ce mot, c'est Standard Operational Procedure. Alors, c'est par les militaires anglo-saxons, ça rigole pas. Donc, c'est extrêmement efficace et c'est très important. Mais, par contre, il me paraît vraiment la plus grande urgence de ne pas laisser notre travail se faire envahir par la normalisation. Une aide normalisée qui pourrait être décrire, on pourrait décrire ça, alors les ONG ne pensent plus, elles camionnent, quoi. Et on livrerait, quoi. Alors, aujourd'hui, en France, un mouvement s'est inspiré en contre-réaction à cette tendance normative qui finalement procède de l'instrumentalisation par les bailleurs. C'est facile, le bailleur de fonds nous donne un enjeu et puis nous dit, bon, ben voilà, je vais vous évaluer et je vous évalue sur une norme. Prenons l'exemple d'Handicap International. On nous évaluerait sur quoi ? Sur la qualité des prothèses ? Pourquoi pas ? Sur le nombre de prothèses fabriquées ? Pourquoi pas ? Sur le nombre de personnes qui, grâce à une prothèse éventuellement mal fabriquée, a pu retrouver un boulot ? Sur la capacité des techniciens locaux à être capables, pour le long terme, à fabriquer ces prothèses-là ? Ce qui veut dire qu'il faut, dans un premier temps, accepter à ce que la qualité ne soit pas forcément au top. Bref, tous ces critères sont forcément extrêmement discutables. Et si on veut mettre en place des critères communs, on en arrive à quelque chose qui est assez concernant, qui est le plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire, en gros, faut aider les gens sans critères de sélection. C'est-à-dire, on peut arriver à des banalités qui sont consternantes. Donc, nous, on est vraiment assez favorable aux critères, mais on se dit que probablement qu'il faut créer quelque chose de beaucoup plus dynamique. C'est créer un groupe qui s'appelle le groupe URD, Urgence Réhabilitation Développement, qui travaille avec la plateforme Sud, qui est une plateforme associative. Alors, je cite ça et j'insiste parce que les gens disent toujours qu'on n'est pas capable à travailler ensemble. Donc, voilà, c'est pas très vrai. C'est vrai, mais c'est pas toujours vrai. Et donc, ce groupe réfléchit beaucoup plus sur une démarche de qualité. Et cette démarche de qualité s'inspirerait de l'idée que, finalement, l'humanitaire, ou tel qu'on le décrit, c'est ce qui reste. Enfin, c'est le reste d'humanité qui vient quand tout est nié, bafoué, quand il n'y a plus de loi, quand les gens sont vraiment détruits. Et donc, il est difficile de ne pas imaginer qu'il faille, à ce moment-là de l'histoire, être relativement inventif et être dans quelque chose qui procède plus de la démarche qualitative plutôt que de l'application stricte et rigide de normes. Alors, comme j'aime bien les trépieds, il me semble à ce moment-là qu'on pourrait dire que notre travail s'articulerait entre en effet un métier, qui comporte en lui-même d'ailleurs ses propres cadres éthiques, une éthique, certains disent, les universitaires disent que l'éthique, ce serait la confrontation de la morale et du droit, et une militance qui serait un petit peu ce qui nous pousse à agir, chacun ayant sa propre militance. Dans nos équipes, il y a des gens qui sont membres du Parti communiste français et il y a des gens qui sont prêtres catholiques mis à disposition de l'association. Et chacun y apporte sa propre militance. Et... Alors, c'est une articulation que je propose, c'est des mots que je propose, je pense qu'ils sont contestables, on peut les remplacer par d'autres. Mais l'éthique fait bien référence à ce qui procède des droits de l'homme et de valeurs universelles. Alors, je voudrais terminer, parce que c'est l'heure, par une série de paradoxes qui sont autant de questions. Alors, pour moi, je suis très gêné par les mots, quand les mots sont déviés de leur sens. Alors, je pense en particulier à l'humanitaire. Je suis un peu dans le désarroi et je ne sais plus trop ce que ça veut dire. Par le fait même de l'abus d'usage. En fait, l'abus d'usage a produit du non-sens. Alors, quand bien même il était au contraire question de mettre du sens dans des actions. Je veux parler de l'humanitaire d'État, de l'humanitaire militaire, des raids humanitaires, enfin, etc. Bon, il me semble que l'État a un boulot, les militaires ont un boulot qui est parfois noble et qui est parfois extrêmement important et qui est celui de nous accompagner. Le raid, eh ben, il a son raid à faire et son aventure. Mais le saupoudrage humanitaire qui ripollinerait un petit peu tout ça, ça me gêne beaucoup parce que ça génère deux choses. Ça génère d'abord une première idée que l'humanitaire, c'est ce qu'on exporte. Hein. En gros, c'est quelque chose qui pour aller faire des trucs là-bas, on ne sait pas trop où. Alors que je pense qu'il y a un coin de la rue qui existe chez nous, on a des voisins de palier, enfin, c'est probablement quelque chose qu'il faudrait repenser à cette échelle-là aussi. Et puis, c'est aussi le cache-pot de l'inaction. Il y a eu un excellent article de Ronnie Broman dans Libé où il disait l'humanitaire ou le nom moderne de la lâcheté. L'Europe dépensait énormément d'argent relativement hein, pour aider les Bosniaques, mais était d'une inertie politique et militaire assez consternante. Je voudrais citer en deuxième point le paradoxe de la relation de l'aidant et de l'aidé. On en a parlé tout à l'heure. Ça me paraît être un paradoxe on est dans une relation qui est complexe et qu'il faut décortiquer, et qu'il faut reprendre assez régulièrement. Je voudrais aussi évoquer l'état de domination morale que l'on colporte à notre corps défendant. On est dans une économie des modèles, on est dans une hiérarchie des valeurs. Il est évident que le Nord développé colporte à travers nous des valeurs et il y a des fois où on se sent un peu héritier, je vais caricaturer, mais héritier d'un certain degré de colonialisme. Enfin, je caricature j'outrance un peu, mais il est évident que quand on colporte des valeurs comme la démocratie, les droits de l'homme, enfin, etc., en gros, c'est Ferré qui disait ce qui est embêtant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Mais ça fait un peu ça, quand même. Bon. Je veux évoquer aussi le paradoxe de la toute-puissance des acteurs humanitaires, hein, où on voit des gens qui, parce qu'ils sont sur le terrain, ils font intrusion, et parfois intrusion violente. Enfin, il y a certains de nos collaborateurs qui, pour le moindre problème, téléphonent au ministre. Enfin, on est dans un mécanisme de toute puissance qui me paraît poser question. Là, ensuite, je voudrais parler des cautérisations des crises. Je suis désolé du terme médical, mais la cautérisation des crises, en gros... En dehors du sens profond que peuvent avoir les crises, on se préoccupe plus d'en diminuer les effets que de penser aux raisons qui ont présidé à cette crise. Je ne crois pas que sortir du totalitarisme pour un certain nombre de pays d'Europe de l'Est soit quelque chose qui puisse se faire sans douleur. Et que je ne crois pas que ce parcours, cette traversée de crise, soit pas quelque chose qui soit la propriété des peuples qui la vivent et que ça fasse partie de la mémoire et de l'histoire de ces peuples-là. Et qu'à trop la cautériser, on imagine qu'elle n'ait pas de sens. Enfin, voilà. Ensuite, je voudrais évoquer le paradoxe de la primauté de l'agir sur le penser, produire du soin plutôt que prendre soin. Ensuite, la difficile confrontation qu'il peut y avoir à, à, ce que j'appelle la confrontation à l'étrangeté ou à l'altérité. Alors, il se trouve que pour ce qui nous concerne, on est confronté à une double altérité, celle du handicap et celle de l'étranger. Et c'est quelque chose qui produit chez les intervenants des réactions parfois complexes et paradoxales, et que j'appelle parfois une espèce d'empathie raciste, hein, et qui pose aussi problème. Alors, je crois que notre milieu est riche et fécond, et il est important de ne pas l'instrumentaliser. Il faut donner la primauté à la pensée active pour que tout cela garde du sens. Mais pour autant, il faut qu'au nom de la compassion, on n'autorise pas tout et n'importe quoi. Je pense qu'il faut qu'on reste en état de veille critique pour que nos actions soient un peu en permanente de remise en cause. En fait, le comportementalisme auquel nous sommes exposés nous fait prendre le risque d'une castration intellectuelle, enfin d'un prêt-à-penser et d'une perte de cette disponibilité interhumaine, en fait, cette relation un peu d'homme à homme qui, finalement, fait le creuset de nos actions. Alors, tout à l'heure, dans la présentation, il était question du prix Nobel. Alors, je voudrais remettre la vérité en place par rapport à ce prix Nobel. Nous sommes très fiers de ce prix Nobel, mais pas parce qu'on l'a eu. On est très fiers parce que, pour la première fois, Médecins sans frontières l'a eu. Mais nous, ceux qui ont eu le prix Nobel, c'est d'abord le mouvement des 6 associations fondatrices de la campagne pour bannir les mines, qui ont été rejoints, comme dans le CID, hein, mais par un prompt renfort, nous nous retrouvâmes 1000 associations dans cette campagne. Et peut-être que pour une des premières fois, ce qui a été récompensé et reconnu comme porteur de valeurs fortes en termes de paix, c'est la mobilisation de la société civile autour de cette idée-là. Et ça, je crois que c'est aussi ce qui fait la caractéristique de nos actions. Voilà, je vous remercie.
Oui, bonjour. Vous parliez tout à l'heure de la manipulation, entre guillemets, que peuvent avoir les ONG sur les actions qu'elles peuvent porter sur le terrain, mais je voudrais aussi soulever la question des gouvernements sur place qui reçoivent les ONG et qui, dans un sens aussi, ont cette tendance à manipuler les actions qui se passent sur le terrain. Je pense par exemple, quand je suis partie faire l'humanitaire et c'était au Soudan, où il y avait ces espèces de destruction des camps organisés par le gouvernement afin de déplacer les populations dans le désert et après de dire au secours, il y a déjà 25 000 personnes qui n'ont rien à manger ni à boire. Et nous, on était bien obligés d'intervenir. C'était un espèce de cercle vicieux comme ça, où chacun utilise l'autre et... où on n'arrive plus vraiment à sortir de qu'est-ce qu'on est en train de faire, où on va, comment réagir et que faire dans ces situations-là.
D'accord. Ben moi, je suis très, très d'accord avec ça. La première instrumentalisation qu'on a eue, ça a été en 1980-81, le camp de Sakeo, qui était un camp à 50 km à l'intérieur des terres en Thaïlande, essentiellement habité par des Khmers rouges. Et les autorités thaïlandaises ont appelé l'aide humanitaire. C'est vrai que les gens étaient en mauvais état. Les gens ont été soignés, réparés, remis sur pied pour être très rapidement plus tard remis à la frontière et permettre à la Thaïlande de se payer pour pas bien cher des gardes frontières qui les préservaient d'une invasion vietnamienne. Une manipulation terrible. Alors, moi, je pense qu'on est en effet manipulé, instrumentalisé tout le temps, à plus ou moins forte dose. C'est pour ça que j'insiste tant, j'essaye d'insister tant sur cette permanence de l'esprit critique et cette capacité à pas trop se laisser envahir par une vision trop charitable. Hein, peut-être essayer encore une fois de reconnaître dans ce qu'on nous montre ou ce qu'on est amené à voir. Le sens de ces affaires-là. Et alors, dans le registre de la manipulation, le travail dans les pays de l'Est, ils ont de beaux restes. Hein. Il y en a deux, trois qui sont assez forts pour bien nous manipuler.
Si vous voulez la parole, manifestez-vous. Hein, parce que... Monsieur.
Sur le plan théorique, les actions des ONG s'opposent point par point aux actions des militaires. Vous avez la guerre bactériologique, vous avez la guerre économique, etc. etc. Et est-ce qu'on, sur le plan pratique, est-ce que vous saisissez cette opposition et est-ce qu'elle va loin ou au contraire, c'est quelque chose qui reste purement théorique ?
On s'y est confronté assez fortement parce que vous imaginez bien que travailler sur la campagne pour les mines antipersonnelles, aujourd'hui, maintenant, tout le monde dit c'est formidable, c'est bien, etc., mais on ne partait pas gagnant. Hein. Et évidemment, on s'est heurté, pas forcément en France, mais dans un certain nombre de pays, à des lobbies militaires où on était... très, très, très clairement sur des confrontations politiques fortes. Alors, évidemment, moi, j'ai tendance à être assez respectueux de l'armée quand les militaires sont au service d'une politique. Je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Je n'aime pas l'humanitaire militaire parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Les armées ont un rôle, ont un travail à jouer. On peut ne pas être d'accord avec ça. Mais il est évident que très souvent, on se télescope avec des pouvoirs militaires, surtout sur des terrains où les pouvoirs militaires sont un État dans l'État. Enfin, je veux penser à la Turquie, par exemple, pour l'accès aux populations kurdes, etc. Enfin, c'est des choses... Où les pays signataires de la Convention d'Ottawa qui voient leurs militaires ne pas honorer l'engagement de l'État.
Oui, les ONG sont parfois accusées, peut-être à tort, d'être en réalité au service de leur pays dont elles donnent une image positive. Les organisations dites non gouvernementales ne seraient, selon leurs détracteurs, que les instruments des États qui les manipulent pour s'en servir à des fins beaucoup plus politiques qu'humanitaires. Qu'en pensez-vous ? Merci.
Je pense qu'encore une fois, on évoque la question de l'instrumentalisation. C'est une question compliquée, parce que si je vous disais « Ah non, nous, on ne lave plus blanc que les autres », évidemment pas. Évidemment que dans la représentation que les gens se font... On travaille en Algérie, par exemple. Travailler en Algérie en étant français, ce n'est pas tout à fait simple. Hein. Et travailler sur les mines antipersonnelles en Algérie quand on est français, c'est encore plus compliqué parce que la première chose qu'on vous montre, c'est la ligne Charles-Maurice. Et comme par hasard, vous butez dans une mine. Et comme par hasard, c'est une mine française, etc., etc. Alors évidemment que tout ce jeu de représentation, il existe, il est fort, il est dangereux. Et on peut être amené à en être soit un instrument, soit une victime, soit pire. Hein. Alors, en ce moment, se pose beaucoup la question de la sécurité des ONG. On voit les gens, on se fait couper la tête, on se fait tirer dessus. Enfin, il y a quand même des trucs un peu épouvantables, etc. J'ai le sentiment que c'est parce qu'on a un tout petit peu trop laissé faire sur ce champ de la représentation, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment affiché qui on était, pourquoi on était là. Je pense à des choses toutes simples. Quand on va dans n'importe quel... je veux dire, tous les gens qui sont allés en Albanie, voire à Tirana à une époque, c'était un vrai festival de 4x4 avec des logos qui étaient les logos des associations. Et moi, alors évidemment, c'est très important d'avoir le logo de l'association parce que à Tirana, il y a souvent TF1 ou Antenne 2. Et quand on passe à TF1 ou Antenne 2, derrière, ça fait un peu jackpot. Donc, on va pas mettre autre chose. Mais moi, j'insiste, au niveau des équipes, c'est un conflit interne dans la boutique. Je me bagarre avec les gens de la com chez nous parce que je dis, il faut mettre sur les voitures ce pourquoi on est là, en langue locale, pour qu'on soit repéré. Projet de réhabilitation, je ne sais pas trop quoi. Enfin bon, peu importe. Mais faut qu'on soit lisible. Et je crois qu'on a un peu laissé filer. Et ça a des conséquences terribles, hein, parce que ça est mortel.
Madame.
Moi, je voudrais tout d'abord vous remercier beaucoup de nous partager et votre expérience et votre réflexion. Et je voudrais aussi vous demander si vous ne pensez pas que ce serait nécessaire d'avoir à toutes les étapes de la démarche d'une ONG, en particulier quand il s'agit d'humanitaire, comme c'est notre sujet aujourd'hui, de préciser les objectifs à tous les stades de la démarche qu'on entreprend. Et ceci aussi bien pour permettre ensuite une évaluation, un retour, que pour permettre d'aller plus loin, en particulier avec les bailleurs de fonds, quels qu'ils soient, qu'ils soient des individuels, que ce soit des associations, des institutions ou des États.
Je suis pas rentré dans ces questions-là, parce que c'est des questions qui sont techniques, qui traitent des outils, mais ça me paraît très important ce que vous venez de dire, parce que beaucoup encore des projets qui se font sur le terrain partent de ce que l'on veut obtenir et n'utilisent pas ce que l'on appelle les outils de programmation ou les cadres logiques de programmation, etc. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails de ces outils, mais en gros, c'est de dire... Bon, Handicap International arrive au Kosovo et peut dire « on va construire un atelier d'appareillage ». Bon. Et puis finalement, quand on a bien construit l'atelier d'appareillage avec les fonds d'aide d'urgence, ça marche bien, le Kosovo en parle bien, etc., on se rend compte que y a des tas de choses qui foirent. Il est mal placé, peut-être qu'il ne fallait pas le mettre ici, peut-être qu'il ne fallait pas embaucher telle personne, peut-être, enfin, bref, etc. Les techniques qu'on utilise pour monter les projets et qui permettent la pose d'indicateurs, c'est de prendre les choses à l'envers. C'est de dire, enfin c'est les techniques des cadres logiques, enfin des cadres de programmation, c'est de dire, en gros, identification des besoins. On parle avec les gens pour faire que s'émette un besoin. Ben, les besoins des personnes handicapées au Kosovo, c'est d'avoir accès à l'emploi et à l'école, par exemple. Eh bien, pour obtenir ça, on remonte la chaîne. Donc, pour avoir accès à l'école ou à l'emploi, il faut des appareils. Pour des appareils, il faut un centre d'appareillage, etc. Et en remontant le chaînage et en décrivant toutes les étapes dans ce qui s'appelle les cadres de programmation, les cadres logiques de programmation, eh bien on identifie à chaque étape les critères de faisabilité et les hypothèses qui vont, si elles se réalisent ou pas, nous permettre de passer, de franchir ces étapes-là. Donc aujourd'hui, ça, c'est des outils qu'on utilise tout le temps. C'est assez technique, enfin... Mais il y a plein d'associations qui ne les utilisent pas. Et comment faire la différence entre une association... On arrivera peut-être à la même chose, à construire le centre d'appareillage, mais toute la démarche de programmation qu'on aura faite aura balisé d'indicateurs pertinents. Moi, je suis très d'accord avec vous. Mais ces outils existent. Et aujourd'hui, d'ailleurs, pour votre information personnelle, les bailleurs de fonds les imposent. C'est-à-dire que les dossiers sont recevables à la CE s'ils ont été élaborés en utilisant l'outil de programmation cadrologie. Ce qui est assez bon.
Donc, nous allons prendre encore trois questions. Une ici, monsieur, et puis là. Allez-y, oui. Madame.
Bonjour. Je vous remercie déjà de préciser, de parler de cet état de moralisation un peu occidentale et de rappeler que... C'est pas seulement des sous-développés, c'est pas seulement des pauvres. Je pense que c'est très important pour nous dans notre manière de voir les choses et dans notre manière d'agir. Et je vais vous poser une question qui est un peu différente, mais qui on l'a évoquée plusieurs fois. Vous parlez des bailleurs de fonds, et je pense que ce qui est le plus important pour vous, c'est une indépendance, une capacité de réaction. Et est-ce que, justement, diversifier vos sources de financement, ça ne serait pas une solution? Et je pense en particulier au financement par les entreprises. Vous disiez que c'était justement une spécificité française de ne pas se financer de cette manière-là. Donc, comment vous voyez ce mode de financement? Est-ce que vous l'acceptez Handicap International et sur quels critères? Merci.
On n'est pas financé comme ça, principalement parce qu'on ne sait pas faire. Alors, comme les Français sont très fiers, ils disent... Je ne mange pas de ce pain-là, mais c'est surtout parce qu'on ne sait pas faire. On a une très très mauvaise culture relationnelle avec les entreprises, parce qu'on est parfois dans des espèces de manichéisme à la française. L'entreprise, c'est le monde du fric, le fric, c'est sale, enfin, bon, des choses comme ça. Enfin, bon, pourtant, on en a bien besoin. Donc, tout ça, ça procède probablement d'une immaturité de notre milieu. Ceci dit, on a quand même quelques expériences, puisque vous allez voir bientôt fleurir, je fais un petit peu de pub, dans vos magasins préférés, les sacs à sapin et autres trucs comme ça. Ça, c'est typiquement un partenariat avec des entreprises qu'on a... Et toute la chaîne a été faite sur des partenariats d'entreprises. C'est quand même une opération qui nous a rapporté l'année dernière 8 millions de francs propres, 8 millions de francs français... qu'on a en fonds propres. Bon. Les Francs, ils n'étaient pas propres. Hein. Je ne sais pas, ils n'étaient pas plus propres que les autres.
Bon, monsieur.
Oui, je me demandais dans quelle limite ou dans quelle mesure l'humanitaire n'était pas utilisé par les pays d'origine comme alibi pour des défauts de politique, de planification politique, de... Enfin, l'humanitaire utilisé comme alibi, comme par exemple en Tchétchénie.
En Tchétchénie ou même parfois dans des pays très très instables, le premier effet de, j'ai pas insisté là-dessus, mais le premier effet de l'aide d'urgence et de l'aide humanitaire, c'est qu'elle détruit immédiatement les fragiles liens qui subsistaient entre les pouvoirs publics et la population. Hein, le premier impact, c'est de détruire ça, quand il s'agirait plutôt de le renforcer. On a fait un petit travail là-dessus où on fait des schémas tout à fait précis qui montrent que l'irruption des ONG et de l'humanitaire quelque part démolit les fragiles équilibres ou fait prendre un risque très très fort de démolition des fragiles équilibres qu'il y a entre un État et ses sujets. Donc je crois qu'il faut y être extrêmement vigilant et sur des situations tout à fait banales. Les États, ils sont très contents de voir Handicap International qui vient s'occuper des personnes handicapées. Ça leur permet de rien foutre, et puis surtout de ne pas s'en occuper, et surtout de ne pas investir, et pas de réfléchir, etc. Et indépendamment de ça, ça permet de pouvoir dire qu'on fait quelque chose. Alors, en plus, dans les situations de crise, c'est un cache-pot. C'était le sens de l'article de Ronnie Broman, qui mettait un petit peu en garde en disant que l'humanitaire, ce n'est pas une valeur refuge toute bonne. Elle est comme, comme tous les systèmes produisent de la violence, en fait. Et je pense que l'humanitaire peut être un système qui produit aussi beaucoup d'incohérences et de violences, comme toute organisation humaine, comme tout système. Et c'est pour ça que je vous ai fait part de mon désarroi par rapport à ce terme. D'ailleurs, je l'ai utilisé en me forçant un peu, là, ce coup-ci, parce que c'était le titre, mais je rip vers solidarité. J'aime pas trop ça, parce que justement, à cause de ce que vous dites, Oui. Également. Vous voulez dire que ce serait un alibi pour permettre de ne pas s'opposer aux Russes. Oui, c'était exactement ce que disait Ronnie Broman en disant ça nous permet de ne pas intervenir. Enfin, ça nous permet de. C'est le cache-pot, en fait. Hein, c'est le...
Voilà. Alors, notre dernière question, s'il vous plaît.
Bonjour, monsieur. J'ai travaillé toujours avec les personnes handicapées. Alors, je vous pose une question bien précise. À propos des personnes handicapées, je crois que ce sont des accidentés de la vie. Et à ce titre, on peut, quand on travaille avec eux, parler d'humanitaire, vous en parliez tout à l'heure. Mais pour ce type d'humanitaire-là, ce type de travail-là, pour ce type de personnes-là, il y a des déductions fiscales. Alors moi, je vous pose une question très simple. Est-ce qu'il y aura possibilité de déduction fiscale pour aider les ONG? Merci.
Bien sûr.
Pour faire cette question, on pourrait peut-être définir encore un critère de financement, non?
Oui, mais on bénéficie, puisqu'on a, quand on est institution d'intérêt public, là, reconnue d'utilité publique, voilà, c'est ça? Oui, loi ministérielle, reconnue d'utilité publique, on bénéficie d'accès à des déductions fiscales pour les dotations, qui sont quand même pas négligeables. Je crois que les gens qui nous donnent, par exemple, les gens qui parrainent chez nous, puisqu'on parraine les projets, on ne parraine pas les personnes, on parraine les projets chez nous, les gens soutiennent les projets, je ne sais plus, ça leur coûte moitié prix parce que, grâce aux déductions fiscales ou des choses comme ça. Je ne suis pas très expert là-dedans, mais c'est quelque chose qui, en effet, est important.
Bien, merci beaucoup.